Kiosque Magazine.
Bonjour à tous, nous sommes le 7 novembre 2014. Bienvenue à Kiosque Magazine sous le thème des loisirs et de la culture. Sur la table présentement, une tonne d'articles. Vous devrez voir ça, ça ferait presque une fresque, là. Mais autour de la table, j'ai deux animateurs aujourd'hui avec moi. Je m'appelle Charles Roy. J'ai Miguel Doucet, bonjour.
Bonjour Charles.
Et j'ai Jennifer Vignerie.
Excusez,
la première fois que je le lis.
Il n'y a pas de problème, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, Miguel, de quoi nous parles-tu?
Eh bien, c'est les sortie de disque de la semaine. On a une sortie de livre d'une exposition qui a très bien fonctionné sur l'histoire du Montréal perdu. Au théâtre, il y a Oh Lord à la licorne et à Québec, Oncle Vania au Trident. Et bien sûr, un film Henri Henri qui sort aujourd'hui alors que je vais vous parler.
Oui, oui. Et toi, Jennifer, de quoi tu vas nous parler?
Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Montréal en lumière qui nous dévoile sa programmation. Donc, ce sera à partir du 19 février 2015.
Ben, on a hâte d'entendre ça.
Oui.
Il sera également au menu le festif Violon électrique. C'est un album de Noël. Et oui, Noël arrive. Ça va exaspérer certains, mais ça va en réjouir certains.
L'Halloween est passé, Noël arrive.
Hein? Oui, c'est ça. Daniel Boucher sort son album après 6 ans de silence musical, disons. Ensuite, une nouvelle sortie en cinéma, Birdman. Le Musée des Beaux-Arts nous propose son exposition Warhol. Comment ça s'appelle? Warhol s'affiche. Et finalement, ben, je vous amène à la petite nation dans le bois.
Dans les sorties de disques de la semaine de la presse du mardi 4 novembre, Philippe Beauchemin nous va de ses suggestions. Alors, la semaine est marquée par la sortie du mini-album de Lisa Leblanc, dont la sonorité américana plaira sûrement à un certain Neil Young, lui-même au nombre des artistes qui nous arrivent avec du nouveau matériel. Ce à quoi s'ajoutent notamment les disques de Stéphanie Lapointe, Danny DiFranco et du groupe Dear Oof. Alors, Neil Young avec l'album Story Tone, après le minimaliste A Letter Home, sorti il y a 6 mois, ce nouveau projet de l'auteur-compositeur canadien est de grande envergure. Story Tone se dessine comme un laïus environnementaliste et pour bien faire passer son message, le musicien propose 2 disques. Le premier majestueux laisse entendre 10 chansons enregistrées en compagnie d'un orchestre symphonique de 92 musiciens et d'une chorale où les violons et cuivres prennent une grande place. Le deuxième, dépouillé, reprend quant à lui les 10 mêmes chansons, mais cette fois en version acoustique, guitare, banjo, piano et voix. Lisa Leblanc, Highway, Heritages et Time Well Wasted. Inutile de décrire que la sortie du mini-album de l'Acadienne est attendue par ses nombreux admirateurs. Cet opus de 6 morceaux en anglais, 5 pièces originales et la reprise de la folklorique Cathy Cruel explore les sonorités folk et americana. Emmanuel Etier, qui a réalisé les récents disques de Jimmy Hunt et de Peter, s'est installé derrière la console et poussé la compositrice à sortir de sa zone de confort. Même si, au final, du Lisa Leblanc en anglais ou en français, ça demeure du Lisa Leblanc.
Est-ce que Kamal, c'est un nouveau titre, c'est ça?
Non.
OK.
Parce que le nouvel album est en anglais.
Ah, ben oui, c'est ça.
Ah. Il y a Stéphanie Lapointe aussi qui sort Les Amours parallèles. Il y a des invités de marque sur le 3e album de l'ex-académicienne et comédienne. À l'écriture des textes, elle fait notamment appel au service des renommés Stéphane Lafleur, Jimmy Hunt, Philippe B. et Kim Doré, de même que Philémon Simon et Liv Volbeck. Alors, ces deux derniers partagent aussi le micro avec Stéphanie Lapointe. À la réalisation du disque, la chanteuse au fil de voix fait confiance au tandem folk Rock Forêt, composé d'Émilie Laforêt et de Joseph Marchand. Annie DiFranco, Allergic to Water. La chanteuse installée à la Nouvelle-Orléans a fait de sa grossesse l'élément central de l'enregistrement de son 24e album en carrière. Enceinte de 6 mois, elle s'est d'abord offert une première séance d'enregistrement de 4 jours dans le confort de sa maison. Puis, un an plus tard, la jeune mère a pris 4 jours pour achever la production de ce Allergic to Water. À la réalisation, son mari, le réalisateur Mike Napolitano, également père du nouveau-né, un disque familial, donc,
ben oui.
où le folk est un des influences cajun. Et notre dernière suggestion, Dear Oof, La Isla Bonita. 20e anniversaire pour le groupe de San Francisco qui propose depuis ses débuts une mixture surprenante où le rock expérimental se déploie au gré des sonorités, des percussions et des bourdonnements ajoutés. Alors, pour marquer le coup, le quatuor mené par les voix de Satomi Matsuzaki et Greg Saunier propose un 12e album qui a tout d'un grand buffet. Alors, pour ce disque enregistré en une petite semaine dans le sous-sol du guitariste Ed Rodriguez, Dear Oof a pondu 10 courtes chansons rapides où les influences de jazz, de rock noise, de pop, déstructurées et d'électro se font entendre. Alors, ce sont les suggestions de la semaine dans la presse de Philippe Beauchemin.
J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers. Ben au moins nous autres on se comprendra. Au pire on rira ensemble. On mangera du Kraft Dinner. C'est tout ce qu'on a de besoin.
Si Joël Legendre a sorti son premier album de Noël il y a quelques jours, eh bien, Alain François sort son troisième album. C'est un homme bien connu dans le coin de Sherbrooke. Et c'est Karine Tremblay dans La Tribune qui nous parle de son spectacle et de son disque. Son article se titre « Festif violon électrique ». Ça a été écrit le 6 novembre. Ce n'est pas pour rien qu'il a écrit une chanson qui s'intitule « Noël marathon, la course de décembre ». Alain François connaît. Et pas qu'un peu. Ces deux premières trousses du temps des fêtes ont trouvé près de 30 000 preneurs. Ils sont produits chaque année devant des salles pleines. Son festif violon n'a pas beaucoup de répit avant Noël. Ni après, d'ailleurs. Mis à part un 4 jours de congé sacré en famille du 23 au 26 décembre, le musicien anime les parties aux quatre coins. Sa formule a fait ses preuves. Il lance donc aujourd'hui sa troisième tourse du temps des fêtes, la dernière, précise-t-il. Les gens ont l'air d'aimer mes drôleries, et je trouvais l'idée bonne de faire une trilogie, dit-il. Encore une fois, le violoniste, natif de Victoriaville, mon Dieu, a réuni 8 chansons de Noël et 8 autres du jour de l'an sur une même galette. Et encore une fois, il a amalgamé ses compositions originales à des reprises remaniées à sa façon, c'est-à-dire avec une touche de rock. Parmi les incontournables qu'il avait envie d'en disquer, il y avait entre autres le Rapide Blanc d'Oscar Tifo. J'en ai fait une version à la AC/DC avec France d'amour. C'est très rock'n'roll.
Oui. Quand tu connais la chanson, ça doit être très assez humoristique, en effet.
Oui. Bon, c'est à découvrir. Sa fille, Laurie, qui a participé à l'enregistrement de la chanson, tout comme Annie Broccoli aussi a participé à cette chanson-là. Notons aussi que Kim Richardson, France d'amour, Mara Tremblay ont également glissé leur voix sur l'une des 16 chansons du disque. Quand Éric Salvaille chante plus faux que faux. Bon joueur, Éric Salvaille a aussi accepté de venir chanter faux sur la composition de Mon oncle Salvaille. Il a fait une grande prestation, l'une des plus fausses que j'ai entendues, mais il assumait complètement. Ça venait du cœur. Alors, pour un disque tout en humour et qui ferait sortir de la banalité, disons, de Noël, c'est difficile de se renouveler hein, dans ce genre-là. Eh bien, cette trousse du temps des fêtes, tome 3, est déjà sortie. Le lancement se fera à la Grande Place des Bois-Francs à Victoriaville, samedi à 10h30 et 13h30, et également dimanche à 13h30. Et vous pourrez le voir en spectacle le 28 et 29 novembre. C'est à Victoriaville, au Colisée des Jardins de Victoriaville.
Bye bye nuages, welcome soleil. J'ai attendu toute la journée. Y'a du travail, c'est pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petit cœur à réchauffer, déjà sa plage à colorer. C'est rouge brûlé. Si en plus de tout ça tu veux bien sécher ma portion de Colombien, je te donnerai de quoi manger. Des larmes d'amoureux attristées. Soleil à demain matin, j'organise un pique-nique party, j'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi.
On vient d'entendre « Welcome Soleil » de Jimmy Bertrand, chanson choisie par Kamal Salifou qui aujourd'hui, c'est sa dernière journée comme régisseur. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il a choisi cette chanson-là, « Welcome Soleil ». Il s'en retourne parmi les siens.
Alors on va lui souhaiter du soleil, mais pour l'instant, moi je continue avec un autre article tiré du journal 24 heures du vendredi 31 octobre, un texte de Marie-Hélène Chartrand, « Oh Lord » au théâtre La Licorne. Objet théâtral inclassable. Le trio de projets bocal revient avec un deuxième cabinet de curiosité, une pièce composée de courts numéros dont la créativité n'a limite que l'imagination de ses concepteurs. Ces différents tableaux électriques se rejoignent néanmoins sous la bannière du folklore. On parlait de violon tantôt, mm-hmm. Le folklore. Hein? Alors, on y revient. Et c'est une source d'inspiration dans chansons à répondre, rythme folk, conte oraux, cow-boy, coureur des bois et quelques animaux seront réunis sur scène et risquent de faire dire « Oh Lord » aux spectateurs. Alors, notre idée de départ était de faire un spectacle plus terroir, plus brun, quelque chose plus dans la terre, explique le comédien Simon Lacroix. Ce dernier forme avec Sonia Cordeau et Raphaël Lalande le trio créateur du spectacle. En plus d'être les interprètes de la pièce, ils l'écrivent et la mettent en scène. Alors, c'est particulier qu'on n'ait pas de metteur en scène, mais ça marche bien. Je crois que la clé du succès est de ne pas tenir mordicus à ses idées, confie-t-il. Les trois comparses se sont connus au Conservatoire d'art dramatique de Montréal et ont commencé leur collaboration créative dans le cadre des ateliers libres de l'école. Par la suite, en 2011, ils créent leur compagnie, le théâtre Projet Bocal. On aimait la sonorité de ce nom et dans les deux spectacles créés jusqu'à maintenant, chaque scène est comme un différent bocal, explique-t-il. Alors, c'est éclectique. L'enchaînement de formes théâtrales diverses est une formule qui a été conservée pour ce nouveau projet afin de ne pas imposer des limites à la créativité des artistes. On s'est donné une grande liberté. Le thème du folklore n'est pas contraignant, c'est plutôt une couleur qu'on voulait donner au spectacle, explique Simon. Quant au titre, il résume bien la réaction souhaitée chez les spectateurs. C'est une expression qui veut dire « Ah mon Dieu !» qu'on utilise quand on est dérouté, surpris par quelque chose, fait-il remarquer. Quant à l'enveloppe sonore de la présentation, un musicien, Yves Morin, sera présent sur scène pour jouer tour à tour du piano, de l'accordéon et plusieurs autres instruments. Alors, Simon Lacroix se démarque tant comme acteur que comme auteur. On lui doit notamment la série web Agence Secret, qui fera l'objet d'une adaptation cinématographique. Il termine également une résidence au Théâtre de Quatre-Sous sous la présentation en mars prochain de la pièce « Tout ce qui n'est pas sec ». C'est une pièce assez philosophique, étrange, qui parle de tout ce qui nous dépasse, du plus grand que nous, explique-t-il. Quant à Sonia Cordeau, connue au grand public dans son rôle au sein des Appendices, elle sera de la distribution du nouveau film de Philippe Falardeau, « Guilbert s'en va en guerre ». Quant à Raphaël Lalande, elle travaille à la création d'une pièce jeune public, « La mère, le père, le petit et le grand ». Donc, un trio qui fonctionne bien et qui sont en pleine effervescence de projets eux aussi. Mm-hmm. Alors, « Oh Lord » est présenté jusqu'au 28 novembre au Théâtre La Licorne.
Euh, Il s'appelle Daniel Boucher. Sûrement vous le connaissez. Ça fait plusieurs années ça fait 15 ans de carrière en fait qui crée des chansons ici au Québec. Et après six ans après son album Le Soleil est sorti, il sort son album Tout est temporaire. Tout, c'est plein T-O-U-T-T-E. Mm-hmm. Tout est temporaire. Une œuvre où l'artiste s'éclate autant au sens propre qu'au sens figuré. C'est une présentation et un article de André Péloquin. Son article se titre « Tout éclaté ». C'est paru dans Le Voir le 6 novembre dernier. Depuis l'annonce de la parution de l'album, on parle beaucoup du retour de Daniel Boucher. Lui qui demeurait pourtant bien présent grâce à la tournée accompagnant Le Soleil est sorti, des projets comme la comédie musicale Les filles de Caleb et La vie nous arrive. Une série à Télé-Québec, où il intervenait comme animateur, auteur et compositeur. Attelé à une table de Furco, le chanteur trace une ligne avec son doigt, allant de lui jusqu'au journaliste en face. « Je n'ai pas le contrôle sur la perception des gens », laisse-t-il tomber. « Ça ne me dérange pas si les gens pensent que c'est un retour ou pas. Concrètement, ça ne change rien, c'est un nouveau disque. » Faire n'importe quoi. Les bases de ce que devient Tout est temporaire ont donc été lancées dès 2013. J'avais plein de riffs écrits, des chansons sans paroles, des textes sans musique, un paquet d'idées pas terminées, se rappelle Boucher, qui glissera ensuite que c'est avec ses ébauches en main qu'il a repris contact avec Sylvain Clavette, le batteur qui l'accompagne depuis une quinzaine d'années. Je l'ai rappelé et je lui ai dit « Écoute, je loue un local, on rentre ton stock et on enregistre la musique pour déclencher les choses. » C'était sans savoir où ça nous menait, sans savoir que ça sortirait, sans savoir ce qui sortirait de tout ça. Il n'était pas encore question d'album. En fait, Boucher se dirigeait vers une autre avenue rarement explorée par les artistes du Québec. Le premier but de l'affaire était de rester en studio et de sortir des chansons une à une sur Internet. Mais ça ne se fait pas encore très bien ici, car environ la moitié des ventes se font encore en physique. Mais c'est ce que j'aimerais finir par faire. Au-delà de l'aspect pécuniaire de l'entreprise, l'auteur-compositeur-interprète souhaiterait surtout se défaire du carcan de l'album. L'idée était de sortir une chanson à la fois. Ça me permettrait d'ouvrir ma palette sonore. Ça me permettrait de faire n'importe quoi, s'exclame-t-il, insistant sur chaque syllabe. Brasser notre propre salade et autres plaisirs. Œuvre produite à quatre mains, Boucher s'est même chargé de la basse sur cet album parce que, dit-il, je me suis mis à m'amuser là-dessus. Tout est temporaire marque également le retour à l'échantillonnage pour Boucher, qui glisse sur son quatrième album des bribes d'un monologue célèbre d'Yvon Deschamps, mais aussi des trouvailles saugrenues d'antan des Carrick et de Jacques Desrosiers. Bien que l'artiste s'en trouve fan de DJ Shadow, Boucher révèle que le sampling s'est imposé de lui-même au gré de ses découvertes. Le premier qui est arrivé, c'est Yvon. Je suis tombé sur ce sketch-là et... Une pause. Boucher mimant un air particulièrement inspiré. Je l'ai mis dans un logiciel audio et j'ai choisi des extraits qui m'interpellaient et je les ai fait fitter sur le beat. L'extrait retrouvé sur Embarques-tu lui est venu en tête alors qu'il parcourait sa collection de disques. J'étais chez moi en Gaspésie et j'écoutais tout bonnement des vinyles. Je suis tombé sur mon vieux disque des Carrick. Je suis tombé sur cet extrait, je l'ai découpé et j'ai ajusté une vitesse qui me plaisait pour en faire un album. Une chanson plutôt. En 10 minutes, j'avais déjà un couplet et un refrain. Parfois c'est long, mais parfois ça se déroule très rapidement. Tout est temporaire, est en vente dès le 11 novembre sur l'étiquette Boucan Bleu. Daniel Boucher sera en concert le lendemain en formule trio au Club Soda dans le cadre du coup de cœur francophone.
Charles, tu viens de nous faire parler de de retour avec Daniel. Moi, je vous ramène plutôt un retour dans le passé, dans la sortie du livre Quartier disparu. Alors, c'est dans le journal Métro du mardi 4 novembre, un texte de Jeff Yates, une histoire du Montréal perdu. Alors, Quartier disparu, un nouveau livre publié, issu de l'exposition du même nom, qui a eu énormément de succès. Exactement, qui était une exposition. Alors, cherche à préserver la mémoire collective de quartiers qui n'existent plus. Formé en grande partie de témoignages d'anciens habitants du Red Light, du Faubourg Amelas et du Goose Village, ainsi que de photos de bâtiments prises juste avant leur démolition, ce livre se veut le masque mortuaire de lieux qui ne sont plus. Alors, ces trois quartiers, tous populaires et caractérisés par les problèmes liés à la pauvreté, ont été rasés dans les années 50 et 60 pour faire place au progrès. Le Red Light a laissé la place aux habitations Jeanne Mance, le Faubourg Amelas à la tour de Radio-Canada et le Goose Village à l'autostade d'Expo 67, une piste de course démolie dans les années 70. Alors, les photos des bâtiments qui figurent dans le livre ont toutes été prises par des équipes de la ville qui faisaient une sorte d'inventaire des édifices qui étaient voués à la destruction. Selon le directeur du Centre d'histoire de Montréal, Jean-François Leclerc, qui a participé à l'élaboration du livre, il en résulte des images fidèles de la vie dans ces quartiers puisque les photographes ne cherchaient pas à prendre des clichés esthétiques. À première vue, ce ne sont pas de belles photos, mais le fait que ce soit des photos neutres, ça donne quelque chose de magistral et de magnifique parce que tu es devant le côté démaquillé de la réalité. Alors, M. Leclerc reconnaît que ces quartiers étaient parfois le théâtre d'une grande misère, mais l'expropriation brutale des résidents leur a surtout fait perdre leur communauté. Les anciens habitants du Goose Village semblent particulièrement regretter la disparition de leur quartier. C'est un deuil que certains d'entre eux livrent dans leurs témoignages. Alors, les gens qui vivaient ces destructions-là vivaient un mélange de stigmatisation de la pauvreté et du taudis, juge-t-il. Ces quartiers avaient des défauts, mais on a tout perdu en même temps. Ce qu'aurait aimé garder, on l'a perdu. Il faut en revanche ajouter que la destruction de ces quartiers faisait en quelque sorte consensus à Montréal à l'époque, prévient M. Leclerc. Il y avait tout un mouvement derrière ça depuis les années 20. Les gens aimaient la modernité, la mentalité était « on s'en va vers une société nouvelle, on va se débarrasser des taudis », lance-t-il, mentionnant que les photos du livre servaient en quelque sorte à justifier l'expropriation. C'est une preuve que ces quartiers-là peut-être que ça valait la peine de tout raser. Le directeur du Centre d'histoire dresse par contre un bilan mitigé du développement auquel la destruction de ces quartiers a donné lieu. Si les habitations Jeanne-Mance sont généralement appréciées par leurs habitants, la tour de Radio-Canada est loin de faire l'unanimité d'un point de vue architectural. Et pire pour certains, l'essentiel de l'espace a été converti en stationnement. Quant au Goose Village, l'espace où il se trouvait est maintenant un terrain vague. Est-ce qu'il y aura un nouveau Goose Village éventuellement dans le futur? Et est-ce qu'on a tendance à justement amener les gens vers à tout vouloir raser. Des fois, on pense plus à notre architecture. Alors, oui. Je pense qu'il y a plein de pistes de réflexion aussi avec ce livre. Alors, c'est en librairie Quartier disparu aux éditions Cardinal.
Amsterdam, qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandys aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le top fait danser. soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Le soleil inonde le terminal. Le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Mon ivresse n'a rien de mirage. Paris a engueulé ma rage. Fini les enfantillages. Je range mes peurs au garage et je reviens à Montréal. Mon sourire est un alliage ultra léger et malléable. Totally natural. Le soleil inonde le terminal et le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Le soleil inonde le terminal. Le dub fait danser mes scandales en format original. Je rentre à Montréal. Oh, oh, oh.
C'était Montréal d'Ariane Moffat. Si Noël apporte son lot de lumière, eh bien, février aussi apporte son lot de lumière à Montréal.
Effectivement, parce qu'on va parler donc de Montréal en lumière qui dévoile sa programmation dans le 24 heures de ce jeudi 6 novembre. Les concerts payants de Montréal en lumière amèneront de la belle visite dans la métropole pour la 16e édition qui réchauffera le cœur des Montréalais et des visiteurs du 19 février au 1er mars 2015. Les prestations de Stéphane Escher et de Bobby Basini, les coprésidents artistiques de l'événement, figurent à l'horaire dévoilé hier par l'équipe Spectra. Stéphane Escher représente la Suisse, le pays à l'honneur de Montréal en lumière 2015, ce qui veut dire qu'il aura l'honneur d'offrir seul sous les projecteurs le concert de fermeture le 28 février au théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Après avoir pris part l'été dernier au Festival international de jazz de Montréal à la place des festivals, Bobby Basini se glissera cette fois dans l'enceinte du Metropolis le 26 février pour partager les chansons de son deuxième album « Where I Belong ». En ouverture, le festival a programmé Bruno Pelletier et Guy Saint-Onge avec l'orchestre métropolitain pour le concert symphonique « Musique et cinéma », une rencontre qui fait suite à l'album de chansons associées à des films lancés par messieurs Pelletier et Saint-Onge. Ce dernier dirigera par ailleurs les musiciens le 19 février à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts.
Excuse-moi Jennifer, je vais t'interrompre parce qu'on entre bientôt en pause. On est de retour dans deux petites minutes puis on va poursuivre la
avec les autres
de ton
invités.
Article.
De...
Oui.
Très bien.
Restez des nôtres. À tout de suite. Vous êtes toujours
écoutez en... Kiosque Magazine.
Oui, j'allais le dire, vous êtes à l'antenne de Canal M, vous écoutez Kiosque Magazine. On poursuit l'article de Jennifer. Alors,
oui,
tu me parlais de Montréal en lumière.
Exactement, et donc il y aura d'autres invités comme Anna Aron, Brian Adams, Marie-Pierre Arthur, Bastien Baker, Guillaume Beauregard, Benny Bonifaci, Jérôme Couture, Christine and the Queens, Daron, Steve Hills et encore plein d'autres artistes qui monteront aussi sur scène. Il y aura aussi des représentations du spectacle Ne me quitte pas, un hommage à Jacques Brel, pour la dernière fois à Montréal, qui est également prévu. Et la musique classique, le théâtre, la danse, l'humour et les variétés ne sont pas en reste avec de nombreuses propositions au menu. Plus d'informations sur la programmation de Montréal en lumière est disponible en ligne sur le site montrealenlumiere.com.
Parfait, c'est à suivre donc. Un ami à moi hier, et c'est vrai, m'a parlé du film Birdman. Je ne connaissais pas. Et ben, j'ai décidé de choisir cet article-là pour en explorer l'avenue. Puis en fait, celui qui a écrit l'article a donné quand même 4 étoiles et demie. Et c'est un film qui... En tout cas, je vais vous en parler, là, vous ferez votre propre opinion, là, ça risque de faire jaser. Qu'est-ce que ça raconte, l'histoire? C'est l'histoire de Regan Thompson, qui est une ex-star hollywoodienne, jadis célèbre pour avoir incarné à l'écran le super-héros Birdman. Aujourd'hui oublié, il tente de se refaire une crédibilité en écrivant et en mettant en scène une pièce dramatique dans laquelle il tiendra le premier rôle. Mais, à 3 jours de la première sur Broadway, Regan est saisie par les doutes, coincée entre les récriminations de sa fille et les pressions d'une nouvelle flamme, les conseils de son ex et l'ego démesuré d'un comédien qui semble décidé à lui voler la vedette. Sans oublier le fantôme de Birdman qui revient périodiquement lui confronter à ses choix passés, présents et futurs, et lui rappeler qu'il fut une époque où lui-même avait des ailes. C'est un résumé et une critique qui va suivre, écrit par Marc-André Lucie, dans La Presse. C'est paru le 30 octobre. Birdman, comme une portion d'éternité. Alors qu'une étoile filante traverse le ciel, Regan Thompson, qui est joué par Michael Keaton, lévite à demi-nu dans sa loge du vieux St. James Theatre. À quelques jours des toutes premières représentations d'une pièce qu'il a conçue, écrite et qu'il signe bien sûr la mise en scène, l'acteur has-been d'Hollywood n'arrive plus à bout de ses questions existentielles. Birdman n'est évidemment pas la première satire du show business à gratifier les écrans du cinéma, mais rarement a-t-on vu un être exécuté aussi bien façon un rôle de... Excusez, c'est parce que la phrase est drôlement construite, je pense qu'il y a une erreur. Mais rarement a-t-on vu une être exécutée d'aussi brillante façon. C'est ce qui est écrit. Le 5e long-métrage d'Alessandro G. Iñárritu, qui a créé Babel et Beautiful, très différent des films précédents dans sa tonalité, se distingue sur tous les plans. Un propos intelligent. D'abord, le propos est furieusement intelligent. Le cinéaste utilise à bon escient l'ancien statut d'interprète de super-héros pour intégrer à son récit des aspects plus surnaturels. Ce fameux Birdman, dont Thompson a enfilé le costume à 3 reprises au cinéma, agit ici comme une mauvaise conscience. Il a fallu à l'acteur une notoriété planétaire qui dure toujours, même 20 ans plus tard auprès de ses fans, mais a en revanche détruit toutes ses velléités de décrocher des rôles plus consistants. Ultimement, la vision que propose Iñárritu dans son film fait aussi écho à la profonde mutation de l'industrie du cinéma hollywoodien, où les acteurs sont de plus en plus en manque de beaux rôles. Sans contredit, Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance est l'un des meilleurs films de l'année. Pardon pour mon anglais cassé. L'auteur de cet article donne 4,5 étoiles, c'est Marc-André Lucier. C'est dans nos écrans.
Toujours au cinéma, j'ai été à la première du film Henri Henri.
Okay.
Et quel bonheur! Alors, on compare beaucoup Henri Henri à Forrest Gump, à Amélie Poulain. Moi, ce qui m'est venu aussi en tête, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une série télé qui a fait 2 saisons qui s'appelait Pushing Daisies. Alors, okay. Une espèce d'univers très Tim Burton, très coloré, très festif, mais avec des propos assez lourds, mais qui sont amenés avec une bonne humeur. Alors, c'est un texte tiré du Voir du jeudi 6 novembre de Philippe Couture, Martin Talbot, Henri Henri, Martin l'Enchanteur. Alors, fantaisiste et souriant, le premier long métrage de Martin Talbot, connu comme réalisateur de la série Les Parents, est un rare morceau d'optimisme dans notre cinématographie. Henri Henri joue dans les plates-bandes d'Amélie Poulain ou de la famille Tenenbaum. Entrevue. L'optimiste est-il le fait de la jeunesse? Pas selon Martin Talbot, heureux quarantenaire, qui propose un film souriant, onirique et coloré sur le destin d'un orphelin qui a passé sa vie à mettre de la lumière dans la vie des gens. C'est un film que je n'aurais pas pu faire dans la jeune vingtaine. J'étais plus cynique à l'époque. Mais arrivé à un certain âge, tu te rends compte que le cynisme ne fait pas avancer le monde. Il faut donc, selon Talbot, garder à tout prix espoir, malgré l'écroulement du monde. « Je suis conscient, dit-il, que c'est une singularité dans la production cinématographique québécoise actuelle, une tache rose au milieu d'un océan noir, mais cette idée me plaît bien. Cela dit, je ne fais pas un film en réaction à un cinéma national que je jugerais trop sombre. Ce n'est pas un geste de rupture. Je le fais simplement parce que je veux faire un cinéma qui est en harmonie avec mes valeurs. » Incarné par Victor Andrés Trell Turgeon, Henri est un atypique personnage élevé par des religieuses et anachroniquement attaché aux enseignements d'Antoine de Padoue. Évincé brutalement de l'orphelinat où il menait une vie paisible et candide, s'occupant de remplacer les ampoules des luminaires de l'institution, il débarque dans un monde a priori hostile où pourtant il continuera de chercher à créer de la lumière, particulièrement dans la vie de Maurice, interprété par Michel Perron, son nouveau collègue de travail, ou de M. Binot, savoureux Marcel Sabourin, un ancien millionnaire dans l'entreprise de cornichons qui s'est affaissée, et d'Hélène lumineuse Sophie Desmarais, la séduisante guichetière du cinéma érotique. Alors, le personnage lui a été inspiré par un homme aperçu dans un documentaire de la série Montréal en 12 lieux qui le montrait réalisant sa tâche quotidienne de relampeur à la place Ville-Marie. Attaché à l'univers du conte et à la structure classique du rite initiatique, Talbot a aussi inventé une esthétique nostalgique et sucrée qui lui ressemble. Il y a sans doute dans mon film quelque chose des films de Forcier dans ses premières années. Beaucoup de mes contemporains américains ou européens font aussi des films apparentés comme Wes Anderson, La famille Tannenbaum, ou Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je pense que ça vient du fait qu'on a grandi avec le cinéma des années 60, qui est un cinéma coloré. Jacques Tati, Fellini, La Nouvelle Vague, Jacques Denis. Ce sont des films qui m'habitent beaucoup parce qu'ils étaient festifs et aussi parce qu'ils se permettaient de sortir du réalisme. Il y a aussi un grand optimisme dans ces films-là. Alors, c'est l'histoire d'Henri, mais c'est surtout l'histoire de ceux à qui il vient en aide. Les personnages secondaires très campés et très typés sont au cœur du récit. Pour moi, dit le réalisateur, toute l'émotion du film doit passer par les personnages secondaires. Il fallait qu'on croie à leur peine et au désir d'aller plus loin qui les meut lorsqu'ils rencontrent Henri. Optimisme quand tu nous tiens. Alors, Henri, Henri, un film qui fait du bien, c'est un film d'automne. C'est peut-être un film aussi qui va, j'espère, être encore à l'affiche pendant la période des fêtes. Alors, mettez de la lumière autour de vous. C'est un peu le message de Henri, Henri.
after all that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Well, yes, I do.
Coldplay, Magic. Eh bien, si Henri Henri, c'est un film magique, eh bien, Charles, tu nous amènes pour une visite au Musée des Beaux-Arts de Montréal pour un autre magicien, mais celui-ci de l'art visuel, Andy Warhol.
Exactement, mais disons que c'est pas tant de la magie que quelque chose de plus concret. Là, je vous explique, c'est que Warhol a eu une carrière, oui, d'artiste, mais avant, il était publicitaire. Mmh. Donc, il faisait des affiches, il dessinait au crayon des objets à vendre. Donc, c'est une exposition, oui, qui traite de ce pan de vie que Warhol avait au Musée des Beaux-Arts de Montréal. C'est un texte écrit par Frédéric Doyon le 6 novembre 2014, Warhol publicitaire. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal lève le voile sur le travail d'illustrateur et d'affichiste du chef de file du pop art. Une part curieusement méconnue de son œuvre que le collectionneur et historien de l'art Paul Maréchal met en évidence dans l'exposition Warhol s'affiche, présentée jusqu'au 15 mars. Warhol publicitaire. Avec ses œuvres en série regorgeant d'objets de consommation, l'amalgame semble aller de soi. Mais peu de gens savent que l'artiste emblématique du 20e siècle a débuté en dessinant pour des magazines comme Life et Vogue, et en signant des affiches destinées à vendre des souliers, des jeans ou de la vodka. En fait, l'artiste touche-à-tout a commencé sa carrière comme illustrateur, ce qui contribue à sa notoriété rapide. C'était quelqu'un qui dessinait énormément, beaucoup à main levée, raconte la conservatrice du design contemporain du Musée d'art du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Diane Charbonneau, qui a collaboré avec Paul Maréchal. Il arrivait toujours chez les éditeurs avec plusieurs propositions. Son trait libre, spontané, léger se distinguait de l'approche plus minimaliste des Européens. Le génie artistique de Warhol repose sur son utilisation de l'imprimé, résume le collectionneur prêteur. Les 52 affiches que vous voyez sont des affiches originales qui ont une valeur artistique parce que l'artiste les a pensées comme telles. Pour vous donner une idée, Toulouse-Lautrec, qui lui aussi faisait des affiches, en a conçu 31 dans sa carrière et Warhol en a conçu 52. C'est pour vous dire du talent qu'il avait à cette époque. L'artiste a non seulement posé sa griffe dans ses publications spécialisées en mode, glamour et vogue, en décoration dans Interiors ou en art vivant, Dance Magazine. Il a aussi signé des portraits de personnalités comme de Jimmy Carter pour le New York Times Magazine ou Michael Jackson à la une du Time Magazine. Le procédé qui lui a fait sa notoriété, dessin appliqué sur la base d'une photographie, y revient souvent. Cette exposition, c'est donc jusqu'au 15 mars, oui, 2015. Ça s'appelle Warhol s'affiche. Et il y aura aussi l'exposition de Van Gogh à Kandinsky jusqu'au 25 janvier.
Ah, Velvet Underground, on fait un lien avec Andy Warhol, la fameuse pochette avec la banane dessus. Ah. Eh bien, moi, je vous amène à Québec pour la pièce Oncle Vania. C'est tiré du soleil du mercredi 5 novembre, un texte d'Isabelle Houde, Oncle Vania, Montagne russe. Jeu de mots. Ah oui, l'écriture profondément humaine de Tchekhov est indémodable, de la vie de Marie Gignac et d'Hugues Frenette. C'est une montagne russe et c'est bien tout ce qu'il y a de russe dans le spectacle, lance Marie Gignac en riant à propos de la version d'Oncle Vania qu'elle met en scène au Trident. Il y a une adresse dans l'écriture et dans l'histoire qui fait que les retournements de situation chez les personnages se vivent de façon franche, et c'est ce qui permet de passer d'un état de détresse à un état d'extase en un clin d'œil, précise Hugues Frenette, qui endosse le rôle-titre de la pièce. Cette nouvelle production a toutes les allures de retrouvailles pour Hugues Frenette et Marie Gignac, qui en sont à leur quatrième collaboration d'envergure comme comédien principal et metteur en scène. Après Les Mains sales de Sartre, Cyrano de Bergerac de Rostand, Henri IV de Pirandello et leur collaboration sur un Tchekhov apparaît tout naturellement. Autant de symbiose avec un metteur en scène sans rien enlever aux autres, c'est rare que j'ai vu ça, lance Hugues Frenette. Comme metteur en scène, j'ai un regard d'amour, un regard bienveillant sur les acteurs et en particulier sur Hugues. J'aime l'acteur qu'il est, j'aime sa façon de se lancer, de se donner à fond, de prendre des risques. Il a une virtuosité émotionnelle extrêmement riche et il l'ouvre. Il a de l'invention aussi. Il a toujours quelque chose à proposer dans le jeu, renchérit Marie Gignac. Alors, c'est la première des quatre dernières œuvres de Tchekhov, les pièces de la maturité, qui sont considérées comme ses chefs-d'œuvre, La Mouette, Les Trois Sœurs et La Cerisaie. Oncle Vania marque vraiment un tournant, et je connaissais moins, et étonnamment, c'est la seule pièce de Tchekhov que je n'avais jamais vue dans une production professionnelle, raconte la metteur en scène. Avec ce regard vierge, Marie Gignac décide de se lancer dans cette pièce qui parle du vieillissement, de l'écoulement du temps et de l'échec. Or, les traductions françaises déjà existantes ne la satisfont pas. Comme elle l'avait fait avec Henri IV de Pirandello, elle retourne aux sources du texte dans sa langue originale. Beaucoup plus directe qu'on le pense, avec Tania Presniakova, une citoyenne de Québec d'origine russe, elle a rédigé une nouvelle traduction. Alors, les traductions françaises sont toujours un peu fleuries. J'essaie de le rapprocher de notre langue à nous, au Québec, explique-t-elle. Alors, le choix se reflète aussi dans la mise en scène, à la fois contemporaine et intemporelle, hors de toute référence culturelle et géographique. On se retrouve tout simplement à la campagne, près d'un chalet, dans une région où les saisons sont marquées comme ici. Le professeur Serebriakov, interprété par Jacques Leblanc, arrive chez son beau-frère, Vania, accompagné de sa jeune et belle épouse, Elena, interprétée par Alexandrine Warren, qui déclenchera le tour de montagne russe. Alors, si vous voulez voir cette pièce, c'est à Québec, au Trident.
Et nous venons d'écouter le chœur de l'Armée rouge, chanté par Chanson de voyage, Adieu à Saint-Pétersbourg.
Merci. Le temps file. Je n'aurai pas le temps de lire l'article que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler au complet, mais je vais vous en lire un extrait. C'est un article écrit par Charles-Édouard Carrier. C'est une suggestion de sortie dans La Petite Nation. Ça a été écrit dans la presse le 31 octobre dernier. Au sommet des Montagnes Noires. Tout près du petit village de Ripon, on retrouve les Montagnes Noires. Endroit prisé par les habitants de la région pour son magnifique belvédère, le parc propose des activités pendant les quatre saisons pour toute la famille, et ce, tout à fait gratuitement. À partir du grand belvédère, on apprécie la beauté de la vue à 426 mètres d'altitude. Les couleurs d'automne sur les montagnes, c'est tout simplement magnifique. On y voit jusqu'aux montagnes des Laurentides, décrit Julie Ricard, la directrice générale de la municipalité de Ripon. S'appuyant sur un achalandage estimé de plus de 10 000 visiteurs par an, Mme Ricard explique pourquoi les montagnes noires plaisent autant. Il y a beaucoup de petits fruits en saison, des mûres et des framboises, que les gens viennent cueillir. En automne, c'est la randonnée pédestre. L'hiver, les gens viennent sur nos pistes de ski de fond et de raquettes. La glissade en famille est aussi très populaire. Comme les sentiers sont en montagne, le ski et la raquette présentent de beaux défis pour tous. Les sentiers, qui totalisent près de 200 km en forêt, sont balisés et sécuritaires. Je le répète, c'est au petit village de Ripon.
Nous sommes rendus au Brève. Alors, tout d'abord, des sorties théâtrales. Il y a Moi et l'autre qui se termine demain au Théâtre des Écuries, au métro Fabre. Il y a une pièce féministe, un collage de textes de femmes, et mise en scène par Marquita Bois. C'est au Théâtre d'aujourd'hui, c'est jusqu'au 29 novembre. Je vous en parlerai peut-être plus la semaine prochaine. Et un texte, monologue à voir, Chaîne de montage. C'est au Théâtre de Quatre-Sous. Ça a débuté cette semaine sur les événements vrais de disparition de femmes dans le nord du Mexique. Mais quelque chose de plus humoristique, eh bien, il y a demain une supplémentaire à 16h au Théâtre du Rideau Vert de La Déprime. Et ce samedi, donc lundi, à 21h30 au Club Soda. Si vous aimez Harry Potter, eh bien, l'humour, le Potter Comedy Show. Alors, ce sont des spectacles que vous pouvez voir.
À Québec, le Musée des beaux-arts du Québec offre dimanche à 10h30 une animation spéciale pour présenter le peintre Fernand Leduc et son œuvre aux enfants de 6 ans et plus. À l'aide de photos d'archives, d'œuvres choisies et d'anecdotes, les participants pourront découvrir l'enfance de ce maître de la modernité québécoise mort en janvier à 97 ans. L'activité est gratuite avec un billet d'entrée aux expositions, mais les places sont limitées, premier arrivé, premier servi. Et le 7 décembre, toujours au Musée des beaux-arts du Québec, l'animation portera sur le peintre Jean-Paul Riopel, ainsi proposé ce week-end une activité de collage inspirée de motifs d'Inde. Pour les enfants de 4 ans et plus, c'est 4 $ par personne, c'est, je le répète, au Musée des beaux-arts du Québec.
Et au théâtre, l'hilarante comédie française Le Dîner de cons est repris au Québec, et c'est André Robitaille et Marcel Leboeuf qui auront l'honneur de brûler les planches en acceptant les rôles de François Pignon et Pierre Brochand. La mise en scène met en contexte le dîner hebdomadaire de Pierre Brochand et ses amis, qui invitent un con à se joindre à eux. Et le plus con d'entre eux sera déclaré vainqueur. Ça débute ce soir à 20h au théâtre Desjardins. Salle Jean Grimaldi.
J'ai fait une petite erreur quand j'ai parlé du Potter Show. C'est le 9 novembre, donc c'est dimanche, donc à 21h30 au Club Soda.
Ah, OK.
Mais aussi, si vous aimez la musique, et c'est toujours la SACEF, donc les week-ends de la chanson québécoise, eh bien, donc ce soir à la salle Claude Léveillé de la Place des Arts, il y a Boréal, et demain soir, Gaétan Essiambre.
Au centre du Québec, il y a un marché de lutins. Près de 50 artistes et artisans, dont plusieurs provenant de la région, se réunissent samedi à l'hôtel Universal Best Western à Drummondville, à l'occasion du tout premier marché des lutins. En marge de cette foire commerciale entièrement québécoise, plusieurs activités sont prévues pour les enfants et leurs parents. Rencontre avec leur Père Noël, l'heure du conte, atelier créatif, coin, maquillage et animation. C'est de 8h à 21h. L'entrée est gratuite. Et en terminant, à Montréal, c'est jour de jeu. Samedi, de 10h à 22h, le collège UNSIC accueille la journée des jeux F 2Z, pendant laquelle une quarantaine de jeux de société sont présentés par des animateurs et peuvent être testés. L'entrée est gratuite. C'est tout pour l'émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je remercie nos animateurs Miguel Doucet et Jennifer Vignery. Excusez-moi.
Oui. Merci à toi, Charles.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Charles.
Merci à Kamal Salifou. Ça a été un plaisir. On se revoit lundi prochain pour une autre édition de Kiosque Magazine.
Et puis nous, ben, vendredi, sous le thème de la culture et des loisirs.
C'est bien ça. Bonne journée.
Bonne journée.